de rites et de célébrations en France et quels sont les relais en France pour se former à célébrer. Moi, je suis avec une seule information, c'est que notre équipe va donner une formation à Paris au mois de juin au Forum 104, rue de Vaugirard. Pour le reste, je l'ignore, mais à ma connaissance, autant il existe tout plein de lieux liturgiques, de préparation liturgique, dans les doyennés, dans les diocèses, Belgique ou France, ça abonde. Mais ce dont nous parlons ici, c'est tout autre chose. Hein. Il s'agit réellement de former des laïcs à célébrer. Il ne s'agit pas de les associer à la célébration simplement de la paroisse. OK ? Que faire avec les résistances du clergé et du cléricalisme ? Non, mais c'est une vraie question. Hein. Je me suis parfois trouvé à la fin d'une conférence avec des personnes qui se mettaient à pleurer devant le découragement de la situation locale qu'elles traversaient. Donc, je ne me moque pas du tout de cela. Je crois qu'on doit mener le combat sur plusieurs chemins à la fois. Par exemple, mais là encore, vous allez croire que je ne parle que de la Belgique, mais mon évêque, qui est l'évêque de Liège, m'a demandé de venir présenter tout ceci à une assemblée du clergé. Ça veut dire, il ne faut pas sous-estimer cet aspect qui pourrait être positif, finalement, qu'à côté de réactions cléricales de gens qui pourraient se bloquer, il y a aussi une soif à poser les problèmes autrement chez pas mal de mes confrères. Et là, j'ai senti, moi, une très forte évolution au cours de ces dernières années. Il y a 10 ou 15 ans, c'eût été impensable que l'évêque d'un diocèse m'appelle à parler de ces questions-là. Aujourd'hui, ça devient beaucoup, beaucoup plus naturel parce qu'en fait, beaucoup de personnes localement voudraient parcourir de nouveaux chemins. Et donc, je ne suis pas trop pessimiste de ce point de vue. Et un des chemins par lesquels on peut beaucoup, beaucoup, beaucoup inventer, c'est la liturgie en fin de vie, c'est la célébration en fin de vie, c'est tous les rituels qui gravitent autour du dernier adieu, où là, il n'est pas du tout nécessaire d'être prêtre ou d'être pasteur. D'ailleurs, ça rejoint une des questions. Il n'y a pas que les sacrements. Et même là où il y a sacrement, on doit parfois, c'est dans l'Évangile, hein, avoir les enfants de la lumière qui sont quand même plus intelligents que les enfants des ténèbres. Par exemple, le sacrement des malades. Dans les cliniques Saint-Luc à Bruxelles, l'aumônerie, c'est 8 aumôniers, 3 prêtres et 5 laïcs, et parmi les laïcs, une dominante de femmes. Il n'y a pas du tout de hiérarchie, l'hôpital est divisé en 8 et chacun a la responsabilité totale de son secteur. Alors que se passe-t-il quand quelqu'un demande le sacrement des malades, mais c'est bien madame une telle aumônière qui préside tout. Mais je me suis moqué du cardinal hein, quand je lui ai dit « Vous nous obligez à tricher, ben nous allons tricher. » Ça veut dire que le jour où on fait la célébration dans la chambre, il se fait qu'un des aumôniers prêtres est là, parmi les gens qui entourent le patient, c'est bien l'aumônière qui va présider, mais chacun, à un moment donné, va faire une onction sur le patient. Donc, si vous voulez sauver les meubles, oui, il y a un prêtre qui aura fait une onction. Mais c'est vraiment pour se moquer de l'affaire. Gentiment, hein. Donc, il ne faut pas être, je trouve, obsédé par la question sacramentelle qui n'est plus du tout la question principale aujourd'hui. J'ajoute que moi, je suis quand même très, très surpris de demandes tout à fait ordinaires que je reçois aussi bien du côté de la naissance que du côté de l'alliance et où la question sacramentelle n'est même pas à l'ordre du jour, hein. Le couple ne vient pas pour avoir le sacrement de mariage. Il vient pour avoir la célébration de mariage. Et donc la question, je n'ai pas dit qu'elle était simple, hein, mais elle est très, très, très concrète. Que fait-on ? Je suis encore en train de le vivre pour l'instant. Il y a un tel nombre de demandes de célébration qui nous arrivent que parmi ceux qui se sont formés à l'école des rites, ceux et celles, il y en a qui acceptent de passer à la pratique concrètement. Et assez souvent, j'accepte le premier entretien. Et puis, par exemple, j'ai encore vécu ça il y a quelques semaines, je demande au couple, est-ce que vous acceptez que ce soit quelqu'un de l'équipe qui n'est pas moi et qui n'est pas prêtre, qui avec vous prépare votre célébration de mariage, puisque vous me dites que vous ne souhaitez pas particulièrement que ce soit une célébration sacramentelle. Je pense que l'idéal est que tous les chemins soient offerts. Il ne s'agit pas du tout de renoncer au sacrement. Et c'est pourquoi nous sommes deux dans mon équipe, qu'il y a un diacre et moi-même, là où la demande est explicitement sacramentelle, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres demandes où nous pouvons avoir des non-prêtres ou non-diacres. Je prends... Et puis on passe à vous, hein. Je veux dire, c'était déjà vous, mais... Avez-vous déjà célébré le mariage de deux personnes dont l'une est en fin de vie ? Non, non. Je comprends très très bien l'enjeu de la question et le côté très très fort, symboliquement très très fort, très marquant de la question, mais je n'ai jamais eu l'occasion de célébrer dans ces circonstances-là. Quelle réflexion avez-vous sur les risques d'emprise spirituelle ? Quelle éthique personnelle pourriez-vous nous partager ? Alors évidemment, je ne peux pas deviner ce qui se cache derrière l'emprise spirituelle. Sinon, je vais partir... dans des réflexions pendant trois quarts d'heure. Je vais quand même vous donner l'un ou l'autre élément. J'ai été confronté à l'accompagnement de beaucoup de personnes gravement victimes du clergé, dans toutes les questions de pédophilie. J'ai célébré les funérailles de Julie et Mélissa, les deux petites victimes de Marc Dutroux. Et à partir de là, le nombre de personnes qui m'ont dit « Mais nous avons aussi été un jour Julie et Mélissa, nous sommes en vie, mais nous avons vécu le même drame. » Et puis il y a eu l'affaire de l'évêque de Bruges et la pédophilie. Donc moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui avaient vécu ces traversées très très difficiles. C'est là que je fais le lien. Je me rendais compte que le point de départ de ces abus, c'était l'emprise spirituelle. Par exemple, j'ai fait la préface d'ailleurs de ce livre chez Albin Michel, « Personne ne te croira », où une jeune femme que j'ai accompagnée qui a été abusée par son curé de paroisse, a admirablement expliqué ce qu'a été cette emprise qui, à un moment donné, est allée jusque-là. Mais moi, je ne sais pas du tout, quand vous me posez la question comme ça, ce que ce petit billet vise. Hein. Je crois que l'emprise spirituelle est quelque chose de très réel, de très dangereux, qu'il faut constamment démonter. Qu'il peut y avoir, si c'est cela que vise la question, une célébration de désenvoûtement. Ça, oui. Il m'est arrivé de devoir célébrer une traversée qui avait été difficile et où il s'agissait de libérer quelqu'un intérieurement et qui avait été sous la coupe d'eux. Il est même arrivé que des psychiatres prennent contact avec moi pour une libération de type spirituel. J'ai été un jour très très touché par une psychiatre qui m'a dit « je suis athée » et la jeune fille que j'accompagne est manifestement sous emprise et je n'ai pas les armes spirituelles que l'on exige en quelque sorte pour la désenvoûter. Et je ne vais pas dire cet enfant, elle avait 12 ou 13 ans, avait une vision de Dieu, mais absolument horrible, horrible, liée à un enfermement dans son milieu familial. Et je lui ai dit simplement, si Dieu était celui que tu me racontes, je quitte la foi à la seconde. Bon, on a parlé 2 heures quand même. Mais la psychiatre m'a dit, ça a tout débloqué. Elle a entendu un prêtre qui lui donnait une vision de Dieu qui cassait complètement le regard qu'elle avait sur Dieu à partir de son enfermement. Mais encore une fois, je bavarde en ne sachant pas si c'était ce que vous visiez. Donc n'hésitez pas à reprendre la parole là. Hein.
En fait, l'idée, c'était... Est-ce que vous devez, je vais vous la dire cash, est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir un gourou? Vous gérez, vous faites, l'assemblée était très émue.
Ça va. Vous touchez nos tripes, vous touchez tout ce qui est existentiel en nous.
Et tu rappuies.
Et alors, du coup, voilà. On a vu, on s'est écroulé quand on a appris pour Jean Vanier, on s'est écroulé. Et
voilà, comment vous faites attention avec tout ce que vous manipulez, entre guillemets, comme émotion, comme existentiel, quels sont vos garde-fous pour. Voilà.
Mais je pense qu'on doit travailler en équipe. Qu'on doit travailler en équipe avec beaucoup de vivacité, beaucoup d'humour, n'être jamais, jamais dans une ligne idéologique non plus. Je ne suis pas du tout sûr que l'on puisse être gourou quand on travaille les questions telles que nous les travaillons dans mon prieuré, avec un regard qui est un regard très critique, et y compris un regard très critique sur la foi, sur la religion, sur les évangiles. Je veux dire, quand vous êtes gourou, vous enfermez dans un système, ce n'est pas qu'une affaire de charisme, hein. Vous enfermez dans un système qui est idéologiquement, je pense, très 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 marqué. Mais
merci.
On doit. Il y a quelque chose de très sérieux dans votre question. On doit constamment, lorsqu'on joue avec des questions aussi intimes, se méfier de soi-même. Mais quand on accompagne la mort d'aussi près que ma manière de l'accompagner, dans des circonstances parfois aussi difficile. Vous savez, il n'y a pas moyen de tricher. Vous avez là une telle vérité en pleine figure. Et en même temps, vous vous sentez tout petit, tout petit, tout petit, parce que il ne faut pas croire hein, que c'est celui qui accompagne qui est le principal. Dans tout ce que j'ai raconté, dans le métier que j'ai la chance d'exercer, ce que je reçois de la personne qui est accompagnée a une valeur incroyable. Il faut avoir la chance d'être engagé, par exemple, dans une équipe de soins palliatifs pour mesurer à quel point c'est inouï ce qui s'y joue qualitativement, à la fois de la part des patients, des médecins, des infirmières, du personnel d'entretien. Donc, c'est l'ensemble d'une équipe, je pense, qui protège. Est-ce que les rituels sont porteurs, sont toujours porteurs de vie, ou est-ce qu'ils ne sont pas parfois mortifères? Par exemple, des repas de famille conflictuels. Non, mais derrière la question, ça me permet de dire que si les églises se sont trouvées en grande difficulté et qu'alors que la soif rituelle était grande, on n'est plus allé la chercher de ce côté-là, c'est parce que le rituel était devenu ritualisme. Et le ritualisme, c'est la mort du rituel. C'est la répétition sans âme. C'est avoir des gestes qui sont posés, des objets qui sont apportés, et dont on ne mesure même plus pourquoi ces objets sont là, pourquoi ces gestes sont là, pourquoi cette eau est là, pourquoi ce sable est là. Et à partir du moment où les choses ne sont plus reliées, alors ça devient du ritualisme. Et donc peut-être que dans la vie, y compris familiale, il y a des rendez-vous qui ne sont pas rituels, mais qui sont ritualistes. Et donc quand c'est ritualiste, ça peut être mortifère, et c'est en tout cas barbant. D'où l'abandon, parce qu'on cherche des démarches rituelles qui donnent souffle. Le goût des fêtes par les jeunes n'est-il pas une soif de rite qui leur manque? Pendant toute ma carrière comme prof à Louvain, pendant plus de 30 ans, j'ai toujours eu affaire à des jeunes. Je leur donnais cours lorsqu'ils avaient entre 20 et 30 ans, mais surtout de 20 à 24 ans. Et donc je les ai beaucoup, beaucoup suivis dans toutes leurs démarches. Et de fait, les démarches festives étaient plus qu'abondantes. Si vous connaissez Louvain-la-Neuve, je pourrais vous en raconter à n'en pas finir. Des fêtes et des sorties étudiantes, et avec de fait énormément de démarches rituelles. Les cercles étudiants, c'est très très codifié, c'est très ritualisé, et il y a même parfois de très très beaux rites qui peuvent être organisés dans ce contexte-là. Il y a des débordements, mais il y a de très 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 beaux rites. Je pense que ce que je vous ai raconté en terminant, hein, les funérailles de Salomé, 20 ans, telles qu'elles ont été préparées, alors qu'il ne s'agissait pas du tout de gens organisés, il ne s'agissait pas de gens d'un mouvement de jeunesse, par exemple. C'était des gens d'horizons différents. Il y avait des copains de cours, il y avait des amis qu'elle avait eus dans la famille, il y avait son copain. Donc, que ces jeunes, en quelques jours, devant le décès de leur copine, étaient capables de cette inventivité, de cette soif rituelle, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé, beaucoup marqué. Et donc, oui, moi, j'ai grande confiance sur le fait que l'on peut vraiment vivre de beaux moments rituels, y compris avec les plus jeunes, et y compris ce dont je suis encore plus proche avec les tout-petits. J'ai toujours voulu célébrer moi-même un certain nombre de démarches rituelles avec les enfants. Avant d'être prof à Louvain, quand j'étais aumônier d'hôpital, j'étais en même temps curé de paroisse. Et je m'occupais, avec les mamans catéchistes, de la catéchèse des tout-petits. C'était bouleversant, leur créativité, leur sens de la poésie à l'âge de 6 ans, ce qu'ils pouvaient nous inventer, et nous essayions de les introduire dans la liturgie des adultes à partir de leur langage de 6 ans. De même, lorsqu'ils avaient 12 ans et qu'ils se préparaient à la profession de foi, je leur demandais, on faisait la retraite de profession de foi pendant la semaine sainte. Et les professions de foi se faisaient la nuit de Pâques. Et le vendredi saint, je leur demandais de venir avec moi dans chaque chambre de l'hôpital où j'étais aumônier et où quelqu'un était en train de mourir. Alors ne croyez pas que je jouais les apprentis sorciers. On était trois adultes pour trois enfants. On leur demandait de préparer un dessin, d'apporter des fleurs, de chanter une chanson. Je les asseyais sur le lit de la personne qui était en train de nous quitter. Je leur demandais de lui tenir la main. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai rarement vu autant de joie dans ces chambres-là. Et l'encouragement que cela représentait pour la famille, on faisait ça avec l'accord de la famille, évidemment, la manière dont ces jeunes alors faisaient leur profession de foi, dont ils avaient compris le sens du Vendredi Saint, ça, c'était pas de la théorie, hein, c'était de l'émotion. Et quand je les revoyais quelques années plus tard, et qu'à 20 ans, 22 ans, ils célébraient leur mariage, il me disait, mais un des plus grands événements de notre petite adolescence, lorsque nous avions 12 ans, c'était cette visite dans une clinique avec des personnes qui allaient nous quitter. Donc, je ne sais pas pourquoi nous manquons à ce point d'audace avec nos enfants. C'est à vous, j'ai épuisé les papiers.
Je pourrais vous dire que j'ai été très ému par ce que vous avez dit tout à l'heure. Votre histoire est une histoire belge, sans jeu de mots. Mais est-ce qu'en France, pays laïque, on pourrait faire ça à l'hôpital ? Parce que vous avez bien dit que c'était dans une clinique, la clinique Saint-Luc à Bruxelles.
Ça, c'est une clinique catholique.
Oui.
Voilà. Et j'étais aumônier dans un hôpital laïque qui appartenait au syndicat socialiste.
Oui. Mais vous étiez en Belgique.
Ah, oui.
Et la Belgique, d'après ce que j'ai pu entendre dire, l'esprit n'est pas du tout le même que chez nous en France. Et au niveau hospitalier, puisque j'ai été médecin hospitalier. Ça évolue, mais c'est pas facile.
J'entends, oui. Je crois, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais je crois que la laïcité à la Belge est vraiment originale. Par exemple, dans mon université catholique, comme vice-recteur, je le disais à des amis tout à l'heure, j'ai voulu que l'on crée une mosquée qui fonctionne admirablement bien. Nous avons des amitiés juives, nous avons deux ou trois centres d'action laïque, nous avons deux pasteurs protestants, et bien sûr la paroisse catholique. Eh bien, ça va de soi. Je n'aurais jamais imaginé que dans mon université, toutes les convictions ne puissent s'y exprimer. Mais je peux en dire autant de l'université laïque de Bruxelles, l'ULB, où 60% des étudiants viennent de familles catholiques et où ils s'expriment aussi de différentes manières. Donc il y a en Belgique, dans le fonctionnement institutionnel, alors qu'on dit d'habitude en France, on n'a pas comme en Belgique un enseignement catholique à ce point organisé, des syndicats catholiques, des hôpitaux catholiques et ainsi de suite. Mais chacune de nos institutions à l'intérieur d'elle-même est très pluraliste. Et ça, c'est un très gros avantage, je trouve.
Notre questionnement.
Ça vient.
Oui, oui. Notre questionnement est celui-ci. Jusqu'où peut-on aller dans le bouleversement du rituel du mariage ? Exemple, les deux grands-pères. Comment discerner les limites de ce qu'on accepte ou de ce qu'on a, ou de ce qu'on refuse ?
Mais je pense que dans toutes les hypothèses, il faut une totale clarté. Hein ? Et cette totale clarté, il est quand même fort simple de l'exprimer au moment d'un entretien exploratoire avec un jeune couple, lequel entretien doit vraiment poser ses questions jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous me demandez ? Quelle est votre quête à travers ce que vous me proposez là ? Je vous prends un exemple qui va être très éclairant. Je reçois un jeune couple et je découvre au cours de l'entretien qu'ils n'en ont mais strictement rien à faire avec le mariage sacramentel, et surtout dans une église. Mais je dis, il n'y a pas le moindre problème. De quoi avez-vous peur ? Moi, je suis tout à fait prêt à me rendre à votre mariage civil, avec grand plaisir. Je veux même bien y prendre la parole, si vous voulez. Ils étaient enchantés. Ils retournent dans leur famille et puis ils reviennent 15 jours plus tard, mais complètement déliquéfiés. C'était la bagarre totale avec les deux familles. Comment ce curé cinglé a osé vous dire qu'il n'était pas nécessaire de se marier à l'église, etc. Je les ai trouvés tellement malheureux que je leur ai dit, écoutez, nous allons aller jusqu'au bout. OK, on fait le mariage dans mon église, mais ce sera un mariage civil. Je vais présider votre célébration laïque et je le dis dès le mot d'accueil. Eh bien, tout le monde était content. Les parents que je n'admire pas avaient pu jouer leur comédie, parce que c'était ça. On mariage nos enfants à l'église. Et aucun respect sur le fait que les enfants, ça ne les intéressait pas. Mais le célébrant, lui, il n'a pas triché, les deux non plus. Je trouve ça très bien. Un autre exemple que j'ai vécu que je trouve sensationnel, c'est une famille laïque et une famille catholique. J'allais dire pratiquant des deux côtés, donc très engagée. Le papa est responsable du centre d'éducation laïque et la maman dirige la chorale de la paroisse. Mais les deux familles s'entendent admirablement, et les deux jeunes aussi. Et nous décidons, avec un humour et avec une ironie que je trouve de très bon aloi, de faire une double célébration, dont une partie se passe à la paroisse dans l'église et l'autre partie au centre laïque. Mais en inversant, autrement dit, tout ce qui était religieux, tout ce qui était lecture de l'évangile, l'homélie, etc., dans le centre d'action laïque, et tout ce qui était de l'ordre de la laïcité dans l'Église. Je vous assure que les invités n'ont pas oublié cette double célébration. C'est une manière humoristique de vous dire il faut clarifier si on veut vraiment la démarche sacramentelle. Alors moi, j'exige qu'il y ait une réflexion sur ce que ça signifie et pourquoi cet engagement sacramentel compte. Et c'est vrai qu'il y a souvent mal donne, hein. Que deux fois je me suis trouvé devant un couple qui disait « oui, le mariage sacramentel, mais surtout pas la messe ». Mais ça demande une fameuse réflexion, hein. Pourquoi oui, le mariage sacramentel, mais surtout pas la messe, et pas la communion. Et quand vous creusez, mais nous ne sommes pas pratiquants, je dis « et alors ?» Oui, mais la communion, c'est réservé aux gens qui sont purs, aux gens qui vont toutes les semaines. Alors, c'est une magnifique catéchèse, mais ça prend du temps, hein, de leur expliquer que le partage du pain, c'est exactement l'inverse, et qu'il n'est pas d'abord réservé à ceux pour qui ça va de soi, mais que ce sont peut-être prioritairement ceux qui en sont éloignés qui méritent de s'en approcher. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons des équipes. Comment voulez-vous que des prêtres isolés fassent encore tout ce que je vous raconte? Mais dans notre école des rites, je commence à avoir des laïcs, hommes et femmes, tout à fait capables d'approcher le couple de la manière que je vous dis là. Il y a quelqu'un qui lève la main là-bas?
Oui, alors il y en a tellement. Oui.
Là, ça fait un beau point quand même.
Est-ce qu'on prend deux, trois questions pour avoir
un peu... Moi, oui, allez-y, non.
Alors, je sais pas, oui, ça fonctionne. Oui, dans notre groupe de travail à quatre, une personne a parlé de ces dangers de l'absence de rite. C'est-à-dire des traumatismes qui peuvent venir chez des personnes, des pathologies, lorsqu'un rite n'a pas été effectué, puisque vous faites être dans ce combat, finalement, ce combat des rites. Je pense, par exemple, que pour un enterrement, on laisse partir une personne sans dire un mot, ou qu'il n'y a pas d'enterrement, ou qu'il y a... Voilà, c'est un peu là-dessus que j'aimerais
que c'est vous nous parliez. C'est très, très... Ah, vous vouliez que j'en prenne plusieurs? Je réponds?
Oui.
Écoutez, c'est une magnifique question. Elle est tout à fait réelle. Et elle est tellement réelle qu'il m'est arrivé de célébrer des funérailles après coup. C'est une manière, c'est une image en partie, hein. Ce ne sont pas les vraies funérailles, puisque les funérailles avaient eu lieu, mais rien ne s'y était passé, si vous voulez. Et le rituel, s'il y avait rituel, était nul. Et donc, une blessure qui peut être portée très, très, très longtemps et qu'il faut réparer longtemps après. C'est très réel. Et dans le même esprit, dans mon école des rites, j'ai reçu une jeune dame qui a créé une entreprise de pompes funèbres à la suite de ce que vous venez de dire. Les funérailles de sa maman, elle me dit, c'était d'une nullité totale et sur le plan des pompes funèbres et sur le plan de la paroisse. Zéro des deux côtés. J'ai dit, plus jamais quelqu'un qui part dans ces conditions-là, même dans les conditions matérielles de l'entreprise de pompes funèbres. Eh bien, moi, je vais créer une entreprise de pompes funèbres alternative, où je prends le temps d'accompagner la famille dans sa souffrance, et y compris de lui proposer une démarche rituelle si la paroisse ne la propose pas ou la propose mal. Mais c'est génial. Et cette dame, elle quitte un boulot, elle gagnait très très bien sa vie pour prendre un énorme risque à partir d'un rite manqué.
J'aimerais savoir pourquoi vous êtes convaincu qu'il faut un célébrant, une sorte de tierce partie externe, et qu'on ne peut pas s'auto-célébrer. Moi, j'aime bien l'autogestion, et j'ai peur qu'il y ait une sorte de reste de cléricalisme dans cette idée qu'il faut une personne extérieure. Qu'en pensez-vous ?
Mais je pense que ce n'est pas du tout une question cléricale, puisque le célébrant peut être homme ou femme, ou prêtre ou pasteur, mais ça peut être une seule fois. Donc ce n'est pas du tout nécessairement quelqu'un qui va en faire un métier, mais je pense que ça n'a pas de sens de se donner soi-même cette parole intérieure qu'on va chercher très loin, ce plus grand que soi qui nous habite. On peut en témoigner dans un moment de témoignage, mais on ne peut pas confondre tous les rôles. On ne peut pas à la fois conduire le déroulement d'un rite et en même temps témoigner. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est un métier de célébrer. C'est un vrai métier avec de la vraie technique. C'est une vraie mise en scène. Je n'ai absolument pas peur de cela. Dans notre école des rites, Marie Sénèque, pasteur à Genève, explique ce qu'est la mise en scène du rituel. Et les curés ou les paroisses qui disent que c'est scandaleux de parler de mise en scène dans ce domaine-là, c'est parce qu'ils font du très mauvais théâtre. Ce n'est pas parce qu'ils n'en font pas, c'est parce que leur théâtre ne vaut strictement rien. Quand on est devant un public comme vous, mais dans un cadre de célébration, qu'il y a des lumières, qu'il y a des parfums, qu'on lit des textes, qu'on pose des gestes, tout cela se construit. Ça ne se fait pas comme ça au hasard Balthazar. Ça se construit. Cette construction, elle doit être conduite. Et le président ou la présidente, il fait plus que passer la parole. Il le fait aussi. Mais à un moment donné, il doit aller chercher chez celui pour qui ou avec qui on célèbre quelque chose de tout à fait essentiel. Quand moi je prépare un couple au mariage, je dis au couple, nous allons célébrer votre amour. Vous êtes très très heureux de nous le partager devant vos amis, vos parents et ainsi de suite. Mais dans l'assemblée qui vient pour votre mariage, il y a des gens qui viennent de divorcer. Il y a des gens qui viennent de perdre leur emploi. Il y a des gens qui sont tombés amoureusement fous la veille au soir. Il y a une maman qui est terriblement tracassée par la maladie de son petit bout. Comment pouvez-vous célébrer votre mariage sans intégrer tout ça ? Ils ne sont pas des purs témoins de votre joie. Ils viennent là avec tout ce qu'ils portent en eux, qu'ils viennent eux-mêmes de traverser. Seul le célébrant peut faire le lien entre ce qu'est en train de vivre l'assemblée et ce que vit le jeune couple ou le couple plus âgé, pour que les deux se rejoignent. Mais il faudrait que je vous en parle plus longtemps. Hein.
Oui, merci de votre témoignage. Je suis là.
OK.
Merci beaucoup. Je vous écoute avec passion. Et ma question, c'est que je suis en admiration par l'idée de la création de votre école. Je ne savais pas que ça existait, l'école des rites. Et j'aurais voulu savoir à qui ça s'adresse. Qui va suivre votre formation ? Est-ce que c'est une formation d'une semaine, d'un an, de deux ans ? Et surtout, qui la suit ? Et est-ce que des Français passent la frontière ? Merci
Alors,
beaucoup.
À ma grande surprise, il y a beaucoup plus de Français que je ne l'imaginais. Il y en a eu, donc nous travaillons par des sessions de 20 personnes, et il y en a eu 3 ou 4 venant de France dans chacune des sessions, aussi bien de Paris que du Midi de la France. Hein. Il suffisait parfois d'une conférence quelque part pour que des gens aient l'idée de s'inscrire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, ça s'adresse absolument à tout le monde. Je vous ai dit que la seule exigence au départ était une lettre de motivation qui devait être très approfondie. Avez-vous déjà célébré? Pourquoi? Sinon jamais? Ou quoi? Enfin, vraiment, tout un questionnaire qui guide la lettre de motivation. Et à partir de là, nous nous trouvons vraiment devant un public, et ça c'est très 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 riche, et on l'a voulu comme tel, extrêmement diversifié. Donc, vous avez une équipe d'aumônerie qui travaille en hôpital, qui se joint à des grands-parents qui n'ont jamais vu ça dans l'existence, à des personnes qui appartiennent à la laïcité, qui sont très éloignées de toute pratique religieuse. Ce qui me frappe aussi, c'est que par rapport à ce que je vois de l'âge moyen de la pratique dans nos églises, là, on voit plus de jeunes. Je ne dis pas que c'est la majorité, mais il y a quand même pas mal de gens plus jeunes, de 30, 40 ans, qui s'inscrivent là. Donc, c'est très, très, très diversifié et une volonté de continuité chez pas mal de personnes qui souhaitent réellement passer à une mise en pratique. Et ça, c'est magnifique.
Alors moi, j'en reviens à deux mots qui m'ont frappé, c'est moi.
Oui.
Le mot construction, par rapport à l'école elle-même, et puis le mot mariage. Et ma question est la suivante. Qu'en est-il de la construction d'un rite adapté pour les mariages interreligieux?
Ça, c'est... Vous avez trouvé ma réponse étonnante, mais ça me paraît tellement simple. Vous êtes réellement confronté à des difficultés de ce point de vue-là? Parce que, je dirais même une chose peut-être surprenante pour vous, je n'en sais rien, mais s'il y a bien un lieu où l'église officielle est ouverte, y compris juridiquement, c'est bien le mariage dit mixte, beaucoup plus ouverte l'Église catholique que les autres religions. Donc, un catholique et un musulman, un catholique et un athée, un catholique et un juif, tout ça ne pose pas le moindre problème pour l'Église catholique, et le rituel est construit de manière telle qu'on respecte les deux. Et la seule chose qui est demandée à la partie non catholique, c'est qu'elle respecte la possible éducation chrétienne si la partie catholique le demande. Mais si vous voulez dire, est-il simple de négocier avec l'autre religion ? Il m'est arrivé de travailler longuement. J'ai fait un mariage comme cela. J'ai célébré un mariage avec une rabbin, Madame le rabbin. Elle a dû fameusement convaincre sa propre communauté. Et on s'est coltiné un certain temps. Mais la difficulté venait de son côté à elle. Mais je viens de célébrer un mariage catholique musulman, et là nous avons fait carrément deux célébrations complètes, l'une totale du côté musulman au Maroc et l'autre complète et totale et entièrement catholique en Belgique, mais en veillant chaque fois à ce que des tonalités de l'autre soient présentes. Par exemple, j'ai veillé à ce que dans la célébration catholique en Belgique, des textes des grands mystiques musulmans soient lus. Vous voyez ?
On va être obligé de s'arrêter pour être prêt, Marc, allez, Marc, c'est vraiment parce que t'es un copain. Vas-y.
Oh.
Je rigole.
Merci, Dominique. Une question, mais elle n'est peut-être pas très simple, et je voudrais revenir, Gabriel, sur rituel et ritualisme. Dans la perspective presque de ce que nous vivons au niveau du synode et de l'avenir de l'Église, il me semble que, aujourd'hui, mais ce n'est pas neuf, mais il y a quand même une partie de l'Église qui, pour moi, est plus du domaine du ritualisme, de la tradition en tant que telle. Et ce que vous mettez en avant dans le rituel, c'est une ouverture à la vie. Et je me dis, mais comment, et je crois que c'est un point d'attention pour notre pape François, comment on peut réunir, comment on peut rassembler, comment nous pourrons demain faire communion entre deux réalités qui me semblent très opposées.
Alors j'espère que ça va vous encourager. C'est peut-être par un biais que je vous réponds, mais l'église du prieuré où je suis, ceux qui fréquentent le prieuré, il y en a quelques-uns parmi vous, le savent, nous sommes en travaux depuis 8 mois. On va faire une grande inauguration le 11 novembre. Parce que nous avons tout transformé, et notamment une transformation fondamentale de cette Église, pour qu'elle devienne un lieu de célébration mixte, pluraliste, et que donc on puisse aussi bien continuer le rituel catholique, la messe, tout ce qui s'y passe, et y accueillir de multiples formes d'expression culturelle et d'autres formes de célébration. Donc, par exemple, le maire de ma commune m'a dit « Es-tu bien d'accord que des funérailles laïques pourront se dérouler dans ton église, y compris avec réception dans le prieuré ?» Toute notre équipe s'y est engagée et l'église a été réformée matériellement de manière telle que l'on soit très à l'aise avec plusieurs formes de sacré qui vont s'y succéder. Mais tout cela, je l'ai fait dans la plus grande transparence avec la hiérarchie. C'est le nouveau primat de Belgique qui, avec les autorités civiles, va venir inaugurer cette église rénovée. Le cardinal, qui est maintenant à la retraite, m'a écrit une lettre pour qu'on prenne ce tournant, pour qu'on aille dans ce sens, en disant il est grand temps que les églises redeviennent des lieux mixtes. Sinon, tout simplement, de toute façon, elles ne seront plus financées par les pouvoirs publics, ce qui est bien normal. Donc il faut qu'on réinvente des choses de ce genre-là, et ça commence parfois par une manière de revisiter le lieu lui-même.
Très bien, merci. On s'arrête là. Merci beaucoup.
Merci à vous.